Hop, hop, Yenne, pop, hop, Yenne, et tous les autres aussi, bonjour. Mettez dans la même pièce Aldebert et Antoine Dole, et vous avez l'équivalent pour les enfants d'un concert réunissant les Stones et les Beatles pour nous. Un concert réunissant les Stones et les Beatles, alors c'est certes impossible, me direz-vous, et vous aurez raison, mais un concert qui réunit Antoine Dole et Aldebert, c'est possible, et nous allons le faire dans ce maxi Best Pop. Et nous allons même le saupoudrer de Philippe Catherine, qui parle aux grands-enfants, et aux petits aussi, et aux petits adultes même, avec son livre le Pyranosaure, qui est pour votre gouverne un mash-up entre Casimir et un T-Rex rose comme un barbe à papa, mais qui voit la vie en noir. C'est un livre qu'il co-signe avec son vieux complice Julien Bert, et nous allons en parler, enfin en reparler dans cette émission. Mais attendez, votre cœur de cible, comme on dit dans la marqueterie, semble être l'enfance, me direz-vous. Alors pourquoi ne pas avoir diffusé cette émission un mercredi plutôt qu'un jeudi? Eh bien tout simplement parce qu'on ne fait pas tout comme personne ou rien comme tout le monde, je ne sais plus. Enfin bref, je me suis emmêlé les pinceaux, mais pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Aldebert.
Bonjour les Antoine.
Bonjour à tous les Antoine qui nous écoutent. Vous êtes chanteur. Antoine Dole, vous êtes auteur. Et tous les deux, vous êtes les idoles des enfants. Et vous avez décidé de faire un album musical ensemble, Mortel Adèle, Show Bizarre. Et cette idée est donc née ici. Dans
exactement.
Les coulisses de Pop Pop Pop. Donc logique de venir en parler ici, nous sommes d'accord.
C'est ça, tout est votre faute.
Alors racontez-nous comment ça s'est passé puisque j'étais là.
Alors dans la forêt de Brocéliande au rez-de-chaussée,
il y a un portique de sécurité.
Ouais.
Et on s'est rencontrés d'abord au portique de sécurité de la maison de la radio.
Qui a sonné à votre passage donc.
Bah, évidemment, puisque Guillaume passait juste avant et les poches pleines. Et donc il s'est fait fouiller allègrement. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. On a pris l'ascenseur. À l'étage 1, on avait sapintisé. À l'étage 2, on se disait que ce serait bien qu'on...
Vous avez dit sapintisé.
Sympathisé. Bah, on est dans la forêt de Brocéliande.
Vous avez dit sympathisé. Et c'est vrai que les fêtes sont proches. Merde, vous avez sympathisé. Donc.
Dans la forêt de Brocéliande. Et effectivement, voilà, l'étage numéro 2, on s'aimait déjà bien. À l'étage numéro 3, on avait envie de faire des choses ensemble. Et à l'étage numéro 4, on parlait d'une chanson. Et...
Arrivé au 6e, déjà 3 chansons de composer.
C'est ça.
Ça va vite.
Oui, oui, car vous travaillez tous les deux à la vitesse de l'éclair.
Lui.
Hein
lui.
Non, tous les deux. Non, je vois votre production. Au moment de vous quitter après l'émission, Antoine Dole, vous aviez déjà les paroles en tête d'une chanson et vous, Aldebert, vous êtes empressé d'en faire la mélodie et le résultat, c'est celui-ci. Poussez-vous les moches, interprété par Dorothée Pousseau, un clip qui est devenu un tube et qui a été visionné plus de 2 millions de fois.
Ouch.
J'ai envie de dire merci pop pop pop. Non, que dire d'autre?
On vous donne quelque chose Antoine?
Bon, on verra ça après. Bon, c'est donc le point de départ de l'album Mortel Adèle, Show Bizarre. On va pas se mentir, je ne suis pas vraiment, enfin plus, hélas, le cœur de cible hein, de votre public. Ben si, mais regardez pas comme ça.
Oh, ça dépend, ça dépend.
Même si je l'aime beaucoup, tout ce que vous faites ensemble. Mais nous avons donc fait appel à une équipe de journalistes en herbe, Juliette, Claire et Julius le Pirate, qui ont respectivement 7, 11 et 12 ans. J'ai d'ailleurs une première question de mon comité d'experts.
Aha. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 7 ans. Et je voulais vous dire, comment vous avez eu l'idée de créer ce personnage et qui vous a inspiré?
Bichette. Ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale, la journée de lutte, contre le harcèlement scolaire. Adèle, elle est née de cet endroit-là. Quand j'avais 14 ans,
j'ai eu des soucis à l'école.
Ouais, de la 6e à la 4e, et j'ai dessiné Adèle en réponse à ça. J'étais un enfant qui disparaissait, qui avait l'impression de disparaître, et donc qui a un jour pris une feuille, tracé un trait pour que un personnage le regarde dans les yeux et lui dise tu existes. C'est là que j'ai dessiné Adèle, ouais.
Voilà, tu as eu ta réponse, ma petite fille. Aldebert, depuis le mois d'août, en fait c'était moi qui faisais la petite fille, depuis le mois d'août dernier, tous les enfants écoutent votre album Enfantillage 4, et vous serez d'ailleurs en live en fin d'émission pour nous interpréter Emmène-moi. Mais avant ça, parlons un peu de cet album, car on retrouve à vos côtés Thomas Dutronc, Oxmo Puccino, Jeanne Chéral, Pierre Souchon, et beaucoup, beaucoup d'autres.
Oui, une petite douzaine d'invités, des gens qu'on adore, qui sont très différents.
Comment est-ce que vous avez constitué, vous avez toujours des guests sur vos albums,
oui.
Là, comment est-ce que vous avez constitué cette équipe-là?
Ce sont les chansons en fait qui ont invité les gens. On parlait de Thomas Dutronc, on avait un titre comme ça qui s'appelle « Écran, rendez-nous nos parents
». Ouais.
Il y en a marre quand même des écrans, ouais. Hein, les parents qui passent leur vie sur les écrans.
Bah oui, c'est ça. Puis moi, ça vient d'une vanne de mon fils qui m'a dit « Papa, tu m'écoutes là ?» Puis je fais « Ouais, 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 bien sûr », en scrollant sur mon téléphone avec le pouce. Et puis je l'écoutais pas, donc à partir de là, voilà, et c'est là qu'est venue la chanson.
Il racontait qu'il avait passé sa copine à la tronçonneuse.
Voilà, d'où le petit sketch. Ouais. Vous l'avez entendu.
Ouais, oui.
Ok. Et on est parti dans un arrangement très musique de l'Est, ouais. Très Kusturica, jazz manouche, ouais. Et naturellement, on a glissé vers Thomas Dutronc qui excelle dans le genre. Mm-hmm.
Alors deux surprises sur cet album, à mon sens, la première étant celle-ci. Thoman avec vous, mais aussi avec Guillaume Meurice, notre abonné fidèle, et Raphaël Mesrahi. Raphaël, ouais. Mesrahi.
Oui, parce qu'on s'est rencontrés sur sa nuit de la déprime,
ouais.
Qui est un espèce de...
Alors, qu'est-ce que Aldebert faisait à la nuit de la déprime?
Oui,
Antoine Dole, vous étiez à la nuit de la déprime, vous?
Non, étrangement, non.
Bah, ça peut arriver, Antoine Dole, ça peut arriver. Bah, il m'avait invité, alors c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Et il m'a dit, est-ce que t'as vraiment une chanson super triste? Je lui ai dit, j'ai des chansons mélancoliques ou nostalgiques, pas spécialement qui plombent. Mais je me suis retrouvé là-bas et on a sympathisé. Et j'aime beaucoup depuis la grande époque Canal, ouais, Raphaël. Ouais.
Très bien, l'autre surprise, c'est Peter Garrett, légendaire chanteur du groupe australien Midnight Oil et activiste écologique forcené.
Ouais, qui était ministre de l'Environnement chez lui. Là encore, c'est toujours une surprise pour moi, Antoine.
Mais comment on se retrouve avec, oui, Peter Garrett, ben, sur l'album d'Aldebert?
Peut-être c'est quelqu'un qui l'imite, c'est pas lui, peut-être. Mais... non, mais oui.
Dorothée Pousseau.
Oui, c'est ça. Je le croise à un festival de guitare qui s'appelle Guitare en scène à côté de Genève. Mm-hmm. Et j'ai une minute, on m'accorde une minute du management pour lui parler, ouais, avec mon anglais de 3e trimestre, de 4e. Et hello, I'm Guillaume Aldebert. Et je lui donne l'album Enfantillage. Je lui dis, il va jamais l'écouter, il va caler un meuble qui grince dans son tourbus avec. Et deux mois après, il me rappelle en me disant « On fait le titre ».
C'est génial.
C'était dingue.
C'est génial. Ouais. Ça donne ça. Alors, il y a Peter Garrett dans le titre, on ne l'a pas entendu.
Il arrive là. Il est là.
Voilà. Mais oui, mais voilà. Je lui dis qu'il avait pris un très très bon accent français.
Voir franc-comtois.
Ouais. Alors, c'est bien, un duo avec Peter Garrett sur l'album d'Aldebert, Enfantillage 4. Antoine Dole, je reviens vers vous, oui, pour dire aux enfants qu'il ne faut surtout pas dire « je reviens vers vous », d'accord ? Sauf, oui, s'ils veulent devenir banquiers.
Oui, c'est comme ça qu'on meurt dans les films d'horreur, en général.
Ah, voilà, agent immobilier ou assureur. Donc, je m'adresse à vous, car vous publiez également un livre pour adultes qui a pour titre « Six pieds sur terre », édité, exactement, chez Robert Laffont. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est écrire pour les enfants ou pour leurs parents ?
C'est d'écrire pour soi. Écrire pour les enfants, écrire pour les parents, c'est le même exercice. On s'adresse à une personne dans son continuum de vie et on essaie de lui donner des émotions. Je pense que le plus difficile, c'est d'arriver à être sincère envers soi-même dans ce qu'on propose artistiquement et puis de rester fidèle aussi à sa sensibilité.
Il n'y a aucune différence dans la méthode.
Pour moi, non. Pour moi, non. Ça part toujours d'un endroit de soi. Et du coup, la forme qu'on choisit d'y donner, elle évolue. Après, la seule différence, elle est au niveau du retour de ce lectorat. Les enfants, ils vous pardonnent pas. S'ils aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Quoi.
Bien. Aldebert, regardez-moi. Rapprochez-vous du micro.
Non, monsieur le directeur.
Oui.
Ouais, le ton, ça m'a fait flipper. Là. Ça m'a rappelé des souvenirs.
Ça s'est senti.
Aldebert, Antoine Dole, alias Monsieur Tan. Depuis le début de cette émission, nous parlons de cet album Mortel Adèle, Show Bizarre. C'est donc le moment d'en écouter un extrait. Ben, je vous propose l'adaptation de ce morceau.
Penche la guitare, entonner les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4.
Big Soul, le brio branché des guitares, et dans la version du Show Bizarre de Mortel Adèle, eh bien ça donne ça, Debout les Bizarres.
Debout les Bizarres, entonnez le tambour. Moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Tous les diables, chantez juste ou chantez. t'es faux. On s'en fiche, on préfère le bizarre. Ça nous rend unique. Trop de bêtises, ne regrette rien. T'auras oublié demain matin. Moi je fais du bruit, je crie, et tu vois c'est fini. Alors souris. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu hésites? Tu n'oses pas? Tu m'entends ou pas? Qu'importe ton histoire, on est des bizarres. Alors c'est parti, je te le redis. Allons enfants, levez-vous, bougez les bizarres.
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charlino. Car oui, j'en profite pour vous présenter celle qui n'hésite jamais à faire travailler sa fille gratuitement, comme on le fait, paraît-il, couramment en Picardie. Charline Roux. Bonjour, Charline.
Elle me doit bien ça. Bonjour.
Bonjour, Charline. Charline.
Je sais qu'elle écoute.
Vous êtes une experte de Mortel Adèle. Vous êtes une spécialiste de musique. Vous avez donc écouté le show bizarre de Mortel Adèle. Qu'en avez-vous pensé?
Mais j'ai envie de vous dire en avant, les bizarres, ralliement sous la bannière de type Tornade Rousse, j'ai nommé Adèle, de retour avec un nouveau projet. Chanter. Voici donc un double album, BD, CD, intitulé Show Bizarre, avec ses chansons de désamour, avec Vive les cookies, Parents à vendre, Pas de pitié pour les Nasbrock, ou encore Poussez-vous les moches. On ne se refait pas. Antoine Doll, est-ce que vous avez eu la même jubilation à écrire les textes des chansons qu'à écrire les scénars de BD?
Mais tellement. C'était tellement un rêve que j'avais depuis toujours, moi, d'être parolier et d'avoir pu dérouler ce processus créatif avec Guillaume, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de relations communes, d'atomes crochus, de sensibilités qui se rejoignent. C'était vraiment très confort, très luxe, très, très vivant.
Je m'adresse à vous deux, là, Aldebert, Monsieur Tan. Parents à vendre. Qui est responsable de ce titre absolument honteux?
C'était la première chanson, non? Parents avant, on a pris à débattre.
On a fait rapper Dorothée direct.
Ouais, je crois que c'était la première. On a écrit tous ensemble.
C'était une des premières, ouais. Et du coup, oui, on s'est rejoint avec Dorothée Pousseo et Diane Lefeyer qui illustrent la série pour poser toutes les idées. Et on est reparti de pas mal de titres des albums de la série, Parents avant qui étant le tome 8. Et voilà, et ça a donné toutes ces...
Vous vous rendez compte du mauvais exemple que vous donnez à cette...
Ah bah vous êtes bien placé, dis donc. Non mais je rêve.
C'est pas complètement faux, hein.
Oui, bon, j'enchaîne
très bien. Donc, dans cette entreprise, Aldebert, charge à vous de composer la musique de cette nouvelle rockstar, et ma stagiaire Maison avait eu une interrogation à ce sujet.
Aldebert, est-ce que vous avez la même méthode pour écrire des chansons pour vous que pour Adèle? Et d'ailleurs, c'est une bonne chanteuse, Adèle.
Alors oui, c'est à peu près la même façon de faire, c'est-à-dire que quand le thème me plaît et que je trouve le ton, en l'occurrence avec Antoine, c'était ça qui était chouette, c'est qu'on était chacun dans son médium un petit peu, moi dans la musique, lui dans le graphisme et dans le travail d'auteur de texte, d'histoire et tout ça, et tout s'est mélangé. Et moi j'ai procédé un peu de la même façon, c'est-à-dire que voilà, on évoquait les thèmes ensemble, comme par exemple cette petite annonce où Adèle vend ses parents, ou un lendemain de Nouvel An, où tout d'un coup on se retrouve dans une ambiance un peu Walking Dead avec les parents morts vivants et tout, et c'est ça qui fait écrire les chansons vraiment, quoi. Il y a une envie, tout d'un coup on se marre, on a très envie et ça part.
Et c'est une bonne chanteuse, Adèle, donc.
Ouais, c'est une bonne chanteuse. Alors, elle a un petit peu galéré sur certaines chansons parce qu'il y avait des choses un peu délicates. Mais en tout cas, c'est une super interprète. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'Adèle chante super bien.
Oui, après, Adèle, sa vocation, c'est pas d'être chanteuse. Elle a quelque chose à dire et elle trouve le meilleur moyen de le faire. Et la façon la plus immédiate, c'est quand même de chanter, de s'adresser aux enfants.
Vous n'êtes pas en train de parler de vous, là, Antoine?
Mais non, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.
Moi, je vois très bien. Justement, je me tourne vers dans la petite rédaction qui a préparé un bon nombre de questions et dans nos petits journalistes, il y a votre plus grand fan en France, Antoine Deul. Il s'appelle Julius Pirate et je crois que vous avez déjà échangé avec lui.
Mais oui.
C'est un petit garçon handicapé qui a plus de force que nous tous ici.
Incroyable réunis. Petit garçon, Julius. Ouais.
Alors, il y avait deux questions à vous poser que je me permets de lire. La première, c'est pourquoi avez-vous choisi de faire un clip participatif?
Ben parce que nous, l'idée du show bizarre, c'était d'inviter les enfants à célébrer leur part de bizarrerie et d'en faire une fête. Et donc, pour nous, c'était important de célébrer la sortie de cette première chanson qui leur dit quand même que bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre, voilà, d'en être fier et de brandir ça comme un étendard. Et donc, pour nous, c'était important qu'ils soient avec nous dans cette première étape de l'aventure show bizarre en étant dans le clip.
Deuxième question de Julius le Pirate. Si l'album ne marche pas, est-ce que vous risquez la catapulte?
Aldebert, oui.
Oh, moi, je veux bien monter dans une catapulte.
J'en suis sûr en plus.
Ça me dirait bien.
Vous voulez bien monter dans une catapulte?
Ouais, ouais.
Et avec, qu'on la déclenche.
Avec, c'est éjectable de avec France Inter.
Avec un petit matériel quand même.
Oui, avec un petit matos. Quelques protections.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Donc, écoutez, si ça marche pas, en tout cas, nous, on a vécu une belle aventure et on est ravis d'avoir emmené Adèle sur ce territoire-là.
Bon, voilà, merci Julius le Pirate. J'invite toutes les popopiennes et tous les popopiens à suivre tes aventures sur Instagram pour voir ton énergie débordante. C'est sur @Julius le Pirate.
Yeah. Et dans cet album, on assiste donc à la genèse de l'album imaginé par Adèle, ses préoccupations tout à fait personnelles, à savoir les monstres, ses amis, et je mets des guillemets, son non-amour, le tout sous le regard mi-amusé, mi-admiratif de ses parents qui espèrent avoir leur petite chanson dédiée. Spoiler, non. Et ça a inspiré une autre question à la stagiaire de la maison.
Est-ce que Adèle pratique ce qu'on pourrait appeler de la méchanceté gentille?
Je crois que c'est un concept similaire à la désobéissance utile. Oui, d'une certaine façon, je pense qu'une forme en tout cas de fermeté et de rapport au monde cette idée qu'on peut se lier aux autres sans forcément avoir à renier qui on est et à polir les contours de notre façon d'être.
Et Aldebert, est-ce que la méchanceté gentille, ça fait des bonnes chansons?
Je pense, ouais. Il y a une idée de transgression qui est toujours excitante. Et je crois
très
que les enfants,
rock pour le
ouais,
coup.
Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'Adèle, c'est vraiment une héroïne. C'est une super héroïne, c'est-à-dire qu'elle a pas d'exosquelette ou de cape, mais elle aide les enfants. J'ai l'impression à avoir un peu d'assurance, à oser s'affirmer. C'est ça, je pense, qui est intéressant dans le personnage.
Bah oui, parce que quelles que soient ses qualités de chanteuse ou non, Adèle est, comme diraient les jeunes gens, déter. Et alors, assez peu sensible aux avis qu'on peut lui donner.
Attendez, comment ils disent les jeunes gens?
Ils sont déter.
Ils sont déter.
Il manque juste la deuxième moitié du mot, en fait.
D'accord,
c'est trop long, c'est trop long.
Elle est assez peu sensible aux avis qu'on peut lui donner depuis sa naissance. C'est une môme assez peu perméable à ce qu'on peut penser d'elle et ce qui la rend différente, parfois étrange. L'ode à la bizarrerie, c'est toujours la ligne conductrice et ça restera toujours la ligne conductrice.
Oui, parce que moi j'aime beaucoup l'idée que dans la cour de récréation, on a des lecteurs qui sont confrontés des fois à des mots qui les frappent et qui les dépassent et qu'on arrive nous à tordre ces mots-là. Et il y a une semaine, j'ai une maman qui m'a écrit pour me dire que son enfant à l'école se faisait traiter de bizarre et que ça lui faisait beaucoup de peine et
c'était
que
moi.
La dernière fois,
c'était moi.
Ça c'était toujours. Et que il y a quelque temps, elle a entendu dans la cour en allant le chercher qu'on le traitait de bizarre. Et il a dit merci. Et voilà, ça pour nous, c'est vraiment une grande fierté.
Étrangeté et hyper-détermination, Adèle, c'est aussi un encouragement, une invitation à cultiver l'amour propre et l'auto-célébration, mais sans la dimension négative du terme. On est d'accord?
Ouais, on n'est pas dans l'ego trip sur Adèle. Je crois qu'elle a vraiment envie simplement d'exister, et d'exister très fort. Et voilà.
Alors, à l'instar de celui qui pourrait être son grand frère de BD, je dirais Titeuf, Adèle ne change pas physiquement et ça aussi, ça soulève quelques interrogations chez vos lectrices.
Antoine, j'ai commencé à lire Mortel Adèle quand j'avais 7 ans et aujourd'hui j'en ai 12 et j'aime toujours autant. Est-ce que c'est parce qu'elle grandit en même temps que moi ou c'est moi qui grandis pas?
Débrouillez-vous avec ça.
Comment ne vexer personne? Non, c'est parce que je pense qu'Adèle, elle s'adresse. Alors, c'est Juliette qui parle.
Ouais.
Je pense que c'est parce qu'elle parle à un endroit de ton enfance qui existera toujours et qui existe encore dans le Aldebert de 62 ans qui est à côté de moi, dans la Charlie Brou de 67 et dans le Antoine de Caunes de 26 ans. Je pense qu'à un moment donné, cette enfance, elle fait partie de nous et elle est une batterie, un radiant. Important.
Mais c'est peut-être aussi parce que la maman de cette petite Juliette se tasse.
C'est-à-dire, je ne connais pas la mère de cette petite fille qui a l'air demeurant extrêmement charmante et très vive. Mais la question s'est posée de la faire grandir. Non, jamais. Pas du tout.
Jamais, parce qu'Adèle, elle est vraiment née à cet endroit de l'enfance, dans cette bascule vers la préadolescence, et c'est là qu'elle a quelque chose à dire d'important.
Est-ce que je m'abuse en disant que ça pourrait être le pendant féminin et contemporain de ce qu'a été le petit Nicolas?
Ce sera à
mon époque lointaine.
Au temps et à la postérité posthume de le dire, mais je le souhaite. En tout cas, c'est un personnage qui s'est logé dans l'enfance de 10 millions d'enfants, donc c'est quand même pas rien. Et c'est des enfants qui vont grandir avec ce qu'Adèle leur a inspiré.
Donc vous voyez ce que je veux dire, Antoine, par rapport à nous, c'était la sensibilité des années 60-70, 1860 bien sûr, et là aujourd'hui, ça correspond tout à fait à... Je sais pas, des enfants qui ont 8 ans, 10 ans, 12 ans aujourd'hui.
Je pense que ça correspond à une période où les enfants ont besoin, en tout cas, qu'on leur donne de l'énergie, de la force, et cette capacité de remettre en cause aussi la parole de l'adulte, de la remettre en question. Alors, je parlais tout à l'heure de désobéissance utile. On a tendance à dire qu'il n'y a rien de plus facile que de désobéir, mais moi je pense que ça reste utile aujourd'hui de montrer aux enfants l'importance de s'affirmer et de célébrer qui on est.
Aldebert, vous étiez un petit garçon désobéissant, vous ?
Alors moi j'étais très très timide. J'aurais aimé connaître Adèle petit. Et j'étais pas un très bon élève. Alors j'arrivais moi à faire mon intéressant, à faire mon malin en dehors en fait, c'est-à-dire dans les chemins de traverse quand on quittait les cours. Mais par contre en classe aller au tableau c'était affreux. C'était un cauchemar. Et les profs me le renvoyaient bien parce que j'étais avec un auteur de polar que vous connaissez bien, Jackie Schwartzman, au collège, et on était les boulets, on était les tards, et les profs nous le disaient. Ils disaient, vous, Aldebert Schwartzman, vous êtes des futurs chômeurs.
Vous finirez chanteur.
Mais c'est vrai. Et moi, je... bah oui, parce que quand t'es chanteur, t'es intermittent du spectacle, donc t'es chômeur dans le statut. Ça nous a blessés, mais quelque part, ça nous a réveillés aussi, je crois. Ouais. Et c'est peut-être pour ça, par ces petits accidents de parcours, ces loos, en fait, qu'on s'est mis à écrire et qu'on s'est mis à s'affirmer. Peut-être.
Alors, il est aussi très compliqué de vivre dans l'ombre d'Adèle, en tout cas pour son entourage. Je pense notamment à l'amoureux éconduit, je pense au chat, et je pense même à l'ami imaginaire. A priori, on se dit qu'une petite fille qui a un ami imaginaire, elle l'a choisi, elle va bien le traiter. Et même là, les rapports sont assez, je ne vais pas dire conflictuels, mais en tout cas, elle se laisse pas influencé.
Ouais. Bah, quand moi j'ai créé Mortel Adèle il y a longtemps, l'idée c'est qu'on voyait jamais les adultes autour. En tout cas, c'était sûr, on voyait que les jambes en fait. Donc c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement centré sur elle et sur son rapport au monde immédiat. La galerie de personnages qui existe autour d'Adèle, elle n'est là que pour lui permettre de déployer des facettes de qui elle est, de sa bizarrerie et de ses singularités. Donc, mais là, dans l'album, on a donné cette consistance de l'ami imaginaire à Guillaume qui interprète le personnage de Magnus sur la chanson à travers le temps, et je trouve que ce petit côté malicieux qu'a Guillaume quand on le connaît lui va très bien.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Aldebert, Antoine Dole, une rencontre qui a donc démarré ici, et j'en profite pour dire aux fans que la tournée d'Aldebert continue, tout comme cette émission spéciale que j'ai rebaptisée En avant les histoires, comme on dit chez Playmobil. Et les histoires se poursuivent avec Philippe Catherine et Julien Baer, juste après le morceau Romance with a Memory. C'est un morceau signé Oliver Sim.
The only thing I business about you to no romance with a memory. Maybe it's best that we never meet again. So I'm let down by reality.
Romance with a Memory, et c'était Oliver Sim. Mais c'est le moment de retrouver un autre chanteur, Philippe Catherine, qui ne parle pas de chansons, mais d'un pyranosaure, avant d'être rejoint par son compère de toujours, Julien Bert. Et Philippe, ensemble, nous allons parler de musique, de cinéma et du pyranosaure. Pyranosaure, qu'est-ce que c'est? C'est le livre pour enfants que vous co-signez avec Julien Bert et dont nous parlerons dans quelques instants avec Charline. On vient d'entendre le Philippe Catherine chanteur, un chanteur qui a été salué par une victoire de la musique. Mais côté récompense, vous préférez de loin votre César, un César que vous avez reçu pour votre rôle dans Le Grand Bain et qui peut vous servir, dites-vous, en cas d'intrusion chez vous parce qu'il est plus lourd qu'une victoire de la musique. N'eût-il pas? Je suis sérieux là. N'eût-il pas été plus simple, Philippe, que vous achetassiez une batte de baseball pour éviter d'avoir à faire un discours devant tout le cinéma français?
C'est vrai que ça pèse 3,5 kg.
Ouais.
Comme un nourrisson.
Ah, vous avez comparé?
Vous balancez un nourrisson sur des cambrioleurs, ça n'aura quasiment pas d'effet. Par contre, le César, en effet.
Le César est très efficace.
Très efficace. Les victoires de la musique, c'est pas du plastique, mais enfin, c'est un truc. Ça pèse pas bien lourd.
C'est de la résine.
Je sais pas trop ce que c'est, ouais, mais c'est transparent, vous savez, c'est un V maintenant.
Oui, alors que le César, c'est du bon métal, du bon bronze.
Exactement. Donc inutile d'investir sur une batte de baseball pour répondre à votre question.
Vous avez déjà eu à vous en servir de votre César?
Dans ce sens-là?
Oui, lors d'une instruction, enfin dans le sens que vous voulez. Mais
j'ai entendu du bruit, hein, parce que j'habite à la campagne, entendu du bruit. Ouais. Et c'est vrai que mon premier réflexe ça a été d'attraper le César.
Ouais. Et ça a été dissuasif?
En fait, c'était du vent. Il n'y avait personne. Il avait l'air bête.
Oui. Et puis la porte s'est fermée et vous étiez nu peut-être sur votre terrasse.
Évidemment.
Avec César. Évidemment, évidemment. Alors Philippe, musique et cinéma sont désormais indissociables de votre parcours.
Oui.
17 albums, plus du double de films. Vous êtes actuellement à l'affiche d'un film et prochainement à l'affiche d'un autre. Et vous dites faire du cinéma pour sortir de chez vous. Est-ce que c'est des expériences que vous vivez comme des stages de réinsertion sociale d'une certaine manière?
J'ai dit ça, oui. C'est vrai. Mmh. Oui.
Vous le confirmez?
J'aime bien observer ce qui se passe, hein, de toute façon. Je participe en même temps, mais quand on est acteur, on participe pas beaucoup, hein, dans la journée.
Ouais. On attend.
Vous en savez quelque chose?
On attend beaucoup.
On attend, donc on a le temps d'observer, tout en s'insérant quand même dans cette mini-société éphémère.
Ouais. Vous dites également devoir vous limiter à des petits rôles parce que jouer vous rend fou. Et d'ailleurs, c'est Virginie Efira qui a trouvé l'explication parce qu'elle dit que vous êtes poreux. J'aime beaucoup ce mot, poreux. Vous devenez le personnage et vous n'en sortez plus.
Le lendemain, c'est fini.
Ça veut dire que pour vous, ça serait difficile d'accepter de faire le biopic, je ne sais pas moi, de Valéry Giscard d'Estaing, par exemple?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Oui. Ou le canoët, bien sûr, mais l'important c'est que ça s'arrête. Mmh. Si c'est un tournage sur toute une vie,
trop long,
ça va pas. Mmh. Parce que j'ai remarqué que aussi, quand on retient un texte au cinéma, d'ailleurs le soir même, on l'a déjà oublié, ouais, alors que le matin on le connaissait par cœur. Mmh. Et puis quand on quitte, quand il y a la fête de fin de tournage ou pas de fête d'ailleurs, enfin. Le personnage est déjà très loin, donc c'est quand même ça qui est bien, mais peut-être que je partage ça avec tout le monde.
Alors Catherine, je le rappelle, c'est un pseudo que vous avez choisi en référence à Catherine Deneuve, un nom de rêve pour une vie de rêve, avez-vous dit d'elle. Vous pourriez jouer Catherine Deneuve au cinéma, histoire de boucler la boucle?
Bien sûr, je pourrais le faire.
Vous pourriez le faire.
Ben, ça dépend avec qui, je veux dire, dans quel. Certainement que je pense que Catherine Deneuve, comme elle est actrice, elle insère, enfin, je dirais, elle représente tout le monde. Hein. Oui, donc ouais. Je me sens aussi représenté par Catherine Deneuve.
Sans cinéma, vous seriez donc enfermé chez vous à dessiner, et nous allons parler de dessin dans un instant.
Oui.
Et vous êtes sorti de chez vous pour tourner la pièce rapportée. Je reviens au cinéma un instant. C'est un film réalisé par Antonin Peretjako. Peretjako.
Oui.
C'est comme ça qu'on dit, avec Josiane Balasco, Anaïs de Moustier. Dans ce film, vous êtes Paul Château-Tétard. C'est un vieux garçon qui va rencontrer Ava, une jeune guichetière de métro, avec qui il pourrait avoir un enfant. Mais je dis pourrait parce que cette possibilité de trouver un héritier est mise en péril par votre mère, Josiane Balasco, qui était opposée au mariage et qui est persuadée que son fils est cocu. Bande annonce.
Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?
Je me suis promenée.
La petite pub vient de sortir.
On se revoit, non ? Moi, je ne tiens plus à m'ennuyer.
C'est qu'elle est folle ! Mythomane !
Maman ! Ava, qu'elle me faut aujourd'hui ?
Il faudra lui faire un test ADN. Imaginez si elle a les gènes de la pauvreté.
Avec Philippe Catherine, Anaïs de Moustier et Josiane Balasco. Dans ce film, vous apparaissez avec une perruque, Philippe, une perruque que vous avez adoré porter, et grâce à ce toupet, vous avez pu balayer vos cheveux d'un geste digne de la pub L'Oréal. Ça, c'est par exemple quelque chose à quoi vous pourriez prendre goût.
Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Le volume, comme ça, qu'on balaie, en effet.
Ça pourrait vous diriger vers des rôles plutôt à perruque?
Bah, pourquoi? Moi, je suis pas, si on me mettait la boule à zéro, si on me déguisait, moi, c'est pour ça que je fais ça aussi. Ouais. C'est pour qu'on s'occupe de moi, que je sois une poupée. Hein, donc, je suis prêt à toutes les expériences, aussi capillaires qu'elles soient.
Voilà, un appel lancé à tous nos amis producteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Philippe Catherine, après avoir parlé de cinéma, de votre cinéma, parlons de dessin, de vos dessins. Après un détour par la musique, votre musique, ici avec Angèle et Chili Gonzalez pour ce morceau duo. D'ailleurs, pourquoi s'appelle-t-il duo, puisque c'est un trio?
C'est vrai.
Merci Philippe.
Mais c'était pour qu'on pose cette question.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On chante la même mélodie.
On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies.
Je chante à cette octave,
et moi à cette octave.
Je chante les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais
mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
Elle a un tempo. Et ce tempo nous impose un grid de 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et beaucoup de secondes. Et nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on enlève pour arriver à notre propre pattern. Notre pattern qui n'est pas terme. Qui n'est jamais terme.
France Inter, Antoine Decaune, Pop.
Et Charline Roux. Car oui, c'est sous le regard émerveillé de Philippe Catherine que Charline Roux vient de faire son entrée dans ce studio. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus chez Charline, Philippe?
C'est pas gênant du tout.
Ses
bonjour.
Yeux,
bonjour.
Ses cheveux, ses fesses peut-être.
Allons-y.
Allons-y. Le sweat est formidable.
Le sweat est formidable.
I got the power.
Voilà.
Qui veut dire...
J'ai le pouvoir.
Elle a le pouvoir.
Ouais, c'est ouais. Ça, hein, et je crois que c'est clair.
Voilà, et vient aussi de nous rejoindre le co-auteur de ce Pyranosaure, publié chez Helium. Bonjour Julien Bert.
Bonjour.
Bonjour. Charline, emmenez-nous dans le monde de Pyranosaure, le dinosaure que nous présentent aujourd'hui Philippe Catherine et Julien Bert.
Alors écoutez, nos invités ont inventé le héros auquel je me suis le plus identifié, toute lecture confondue, massif, rose, pas tout à fait de son époque et surtout étranger à toute forme d'optimisme. Bref, le Pyranosaure, c'est moi, bien plus que la Bovary. Quelles sont, selon vous, messieurs, ses vertus pédagogiques?
Aucune. Ou peut-être savoir pour les personnes qui ressentent la même chose, que c'est partagé par un animal qui a vraiment existé.
Qui a vraiment existé, insistez-vous.
Ouais. Ouais. Oui, 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 oui.
Vous avez trouvé des traces du Pyranosaure.
Il y a eu des études faites en Californie là-dessus.
D'accord.
C'est souvent en Californie qu'il y a des études. Ouais. Et alors vous publiez un ouvrage jeunesse, mais vous, Philippe Catherine, Julien Bert, quelles étaient vos lectures d'enfant? Qu'est-ce qui vous a bercé?
Moi j'étais très Hergé, alors jusqu'à Kik et Fluk. Ah oui, que j'adorais. Et c'était vraiment... Hergé m'a vraiment... C'est mes premiers grands voyages en solo. Donc après, ça a été beaucoup Snoopy. Toujours d'ailleurs. J'ai toujours...
Vous aimez toujours Snoopy?
Toujours. Mm-hmm. Les Peanuts restent pour moi... je sais pas, comme l'évangile.
Mm-hmm. Et pour vous, Julien?
Tintin, mais Tintin, c'est, on le lit seul. C'est pas les lectures première jeunesse, en fait.
Mmh. Ah bah j'avais, ouais, enfin.
Ouais, c'est un truc qu'on lit, il faut savoir lire pour lire Tintin.
Ah oui, d'accord.
Babar, moi.
Ah, Babar.
Je suis né il y a très très longtemps, au 19e siècle aussi.
Ah oui, Babar, c'est, oui, effectivement. Mais...
années 30.
Voilà. Ah, ok. Julien, vous êtes musicien, auteur jeunesse. Julien Bert, comme Édouard, et c'est normal, hein, puisque vous êtes le frère d'Édouard.
Ouais.
Mais avec Philippe, il n'y a pas de lien de famille.
Non, on n'est pas de la même région.
Non. Comment est-ce que vous êtes rencontrés?
À la Balle au Bon. Et Saint-Louis, tu faisais un concert en 96, non?
Exactement. En 96.
Ouais, en 95, 96 peut-être.
Oui. Mm-hmm. J'ai vu arriver Julien, bien vêtu. Mm-hmm. Et on s'est rencontrés pour la première fois. Il a très bonne odeur, déjà. Moi, je suis un animal, alors je reconnais mes amis et mes ennemis.
En les reniflant.
C'est Monsieur Givenchy.
C'est Monsieur Givenchy,
évidemment.
Et donc ça s'est passé comme ça, une espèce de coup de foudre olfactif, donc.
D'abord.
Vous, de votre côté aussi, Julien.
À l'époque, on buvait pas mal, donc c'est assez flou. Je te vois chantant mon bel andalou. Mm-hmm. On était Grégory Tcherkinsky. Et ouais. Après, je sais plus trop.
Après, t'as fait des disques.
Ouais. On s'est toujours vu.
Ouais. M'a vendu un orgue après.
Oui, je t'ai vendu
un orgue électrique. Ouais.
Un Philicordia que tu m'as avoué n'avoir jamais utilisé.
Non,
c'est pas bien ça.
J'étais trop impressionné.
Donc en résumé, vapeur d'alcool et vapeur de parfum. C'est un peu ça la base.
C'est pas faux.
La fondation.
Et là, aujourd'hui, un tyrannosaure.
Le Pyranosaure.
Pyranosaure.
Et donc un Pyranosaure, un dino qui anticipe le pire en toutes circonstances, y compris la non-pérennité de son espèce, il me semble quand même assez lucide, cet animal.
C'est possiblement le seul qui avait anticipé
le
fait
raison.
Que...
Oui, c'est à vertu comique, hein, c'est à vocation comique. Après.
Peut-être trop lucide, il est trop lucide.
C'est-à-dire que dans toutes tout ce qu'il imagine de pire, la seule chose, il y en a une qui va en effet arriver, c'est sa disparition.
Son extinction.
Mais
ouais.
Comme on dit, les psys disent toujours que les paranoïaques ont raison, au fond.
Bien sûr.
C'est donc, voilà.
Personne ne met pas dans l'outil ici. Alors, sur la plage ensoleillée, il s'inquiète du temps qui se couvre, ce pyranosaure. Face à un couscous gargantuesque, il craint un manque de semoule. Lors d'une course, il pense perdre. Contre un escargot, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui voit le verre toujours à moitié vide. Et vous, quelle a été votre source d'inspiration? L'un et l'autre, peut-être réciproquement?
Écoute, moi, alors, dans notre couple, ouais. Au fond, moi, je dessine. Hein. L'histoire, c'est Julien qui
oui, mais enfin,
non, mais je précise.
Il faut qu'il y ait une alchimie, quand même.
Je précise, mais je me suis retrouvé totalement
mais t'as quand même un
dans
bon
Pirano
fond.
Aussi.
Alors, Philippe, j'ai un très bon fond. C'est quelqu'un de très optimiste. Il est très volontaire et énergétique. Ah. Énergétique, non. Énergique.
Comme une barre.
Énergétique, c'est les morts de Mars.
Et je
moi, mon tempérament est différent.
Je note d'ailleurs que ce drôle d'animal envisage le couscous comme une montagne de semoule accompagnée d'une seule merguez.
C'est pour l'effet comique.
Et qu'il picole. Parce que pour voir le verre à moitié vide, encore faut-il qu'il soit aussi à moitié plein. Et en l'occurrence, qu'il boit ressemble sacrément à du vin. On est sûr que ce soit un héros pour enfants?
Bon, ça c'est Philippe qui a fait du vin. Je vais lui mettre de l'eau.
Ou ça peut être de la grenadine. Non, oui, de toute façon, ouais, on va pas non plus.
C'est vous qui voyez le mal
et
partout.
Et puis je crois pas que ce livre soit. Enfin, bien sûr, il est pour les enfants, mais il est aussi, je crois que.
J'espère qu'il plaira à tout le monde comme.
Voilà, c'est ça. On va pas.
J'ai beaucoup ri, moi. J'ai beaucoup ri. Je sais pas si c'est normal, mais je.
Voilà, vous êtes majeur.
À peine. Depuis peu, mais.
Depuis peu.
Ouais, depuis peu.
Bah, comme quoi.
Le livre est accompagné d'une chanson qu'il faut aller télécharger après avoir répondu à quelques questions sur le livre, comme j'ai lu attentivement. J'ai réussi à accéder, ça donne ceci.
Le pi, le pa, le po, pyranosaure. Le pou, le poids, le pi, pyranosaure.
Écrit-on différemment une chanson destinée à un public plus jeune ou la chanson du pyranosaure / J'aime tes fesses / n'importe quel album de Julien Bert, même combat? Est-ce qu'on s'y prend de la même manière?
Alors, là, on va être très précis. Je ne voulais pas faire cette chanson. Philippe m'a dit, mais si, on était chez moi. Philippe, oui. Qui est plein d'énergie et d'optimisme.
Énergétique.
Il m'a dit, mais si, allez, viens, vas-y. Il a sorti son iPhone et puis on a improvisé cette chanson ensemble. Ouais. Donc c'est le son de l'iPhone qui, à mon avis, est supérieur au son des plus grands studios de Californie.
Toujours, on voilà. Y revient.
Donc voilà, c'était dans la bonne humeur. Et c'est lui qui m'a convaincu. Moi, j'étais sûr que c'était une mauvaise idée.
Nous, c'était une bonne idée, Philippe, on est d'accord.
Oh, moi, j'aime ça, à l'écoute, là, franchement.
Et puis, il faut la mériter, la chanson, vraiment. Il faut la télécharger, il faut répondre aux questions.
C'est écoutable autant dans une EHPAD que dans une école maternelle.
Absolument, ça réconcilie tous les publics. Oui.
Parce que des piranos, il y en a dans toutes les tranches d'âge.
Il y en a dans toutes les tranches d'âge.
Vous voyez ce que je veux dire?
Très, très bien.
Y compris dans ce studio.
D'ailleurs, puisqu'on parle du Pyranosaure, le livre de Julien Bert et de Philippe Catherine, édité chez Helium, je voudrais savoir comment on arrive à donner envie à un éditeur en racontant l'histoire de quelqu'un qui n'en a pas d'envie. Comment vous stimulez votre éditeur? Vous allez le voir, vous
c'est
dites...
C'est une bonne question, ça.
Ouais, peut-être la première de cette émission, mais...
Oui.
Vous aussi, sentez prendre le désespoir.
Moi, j'avais bien aimé le vieux loup de mer.
Ah, le vieux loup de mer, c'était au début.
C'était au début. C'était il y a longtemps.
Déjà. C'était il y a longtemps.
C'était avant.
Je pense qu'on sous-entend, on espère que la répétition en fait des traits de caractère du personnage au fil des pages va créer un effet comique auprès de l'éditeur et des millions de Français.
Ça a marché, de toute évidence, puisque le livre existe.
Oui, oui, oui. Sophie Giraud, chez Helium, qui l'a aimé.
Et comment s'est imposé le rose comme couleur dominante de l'ouvrage? On connaît, Philippe Catherine, votre amour pour les soupules du même ton. Doit-on y voir un lien?
Non, pas de lien de ce côté-là. Bon, pourquoi pas aussi? J'y avais pas pensé. Mais en tout cas, le rose, je pense que ça vient on apparente souvent le chewing-gum. Au rose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mou, à la fois de collant,
hein, ouais.
qui est ce que laisse le passage d'un paranoïaque dans dans une pièce.
Beau et collant.
Et comment est-ce que vous avez articulé cet ouvrage entre vos illustrations, Philippe, vos photos, Julien, c'était entre dessin et décor naturel, au-delà de l'histoire?
Alors là, c'est une très bonne idée de Philippe, à ma gauche, qui m'a dit, on va mettre des photos. Je lui ai dit, mais oui, t'as raison, ça va faire un petit effet granulesque, enfin, croquant.
Ça permettait aussi de d'inscrire aussi le tyrannosaure dans l'époque actuelle. Hein. Mm-hmm. On voit peut-être des voitures, de,
parce que
on pense que le tyrannosaure existe toujours.
Ouais, qu'il est toujours là.
Ouais.
Bah, il se rend au Muséum d'Histoire Naturelle déjà.
Ah oui. Donc, il s'y rend. Ouais. Absolument.
C'est à la fin de l'ouvrage.
Oui.
Oui. D'accord. Alors moi j'ai une autre hypothèse. Peut-être que le point de départ de cet ouvrage pourrait venir tout simplement de ça.
Si certains, comme le calicroma, épargné par la néphile, cesse toute activité, d'autres partent en quête de nourriture sous le couvert de la nuit. Une quête qui n'est pas là, sans danger.
Je veux parler d'un reportage animalier, mais alors repousser. Peut-être regarder sous substance.
Il faudrait toujours se méfier des
proies. C'est une hypothèse recevable?
Non, mais j'aime bien cette bande sonore. Mmh. J'aime bien les noms savants.
Oui, c'est apaisant.
Oui.
Ça vient d'où?
C'est un documentaire animalier.
Qui vous est cher?
Oui, non.
Son préféré, il le regarde en boucle au bureau tout le temps.
Bon, ce Dinosauria pessimus, qui s'appelle Pyrannosaure, anticipe le pire en toutes circonstances. Évidemment, on ne parle pas là d'une biographie cachée.
Une biographie de quelqu'un?
Oui, une biographie déguisée.
Oh, ben, je pense que ça doit parler d'un peu tout le monde, hein, je crois. Tout le monde a ça en nous.
Mais le futur est mystérieux. On peut le voir, accepter son mystère ou être très optimiste et dire mes projets vont réussir, ou l'effet contraire, il y a trois possibilités en fait. Mm-hmm. Fataliste ou optimiste ou pessimiste.
Mm-hmm. Quoique un optimiste peut avoir des moments. Quand tu me dis que je suis optimiste, des fois je vois l'avenir en noir aussi.
Ah, mais
ça arrive aussi.
C'est possible.
Non, il dit que vous êtes énergétique.
Peut-être une barre de crunch.
En fait, vous êtes hyperactif, Philippe.
Mais en fait, c'est que tu te plains pas, toi. Donc c'est ça qui fait croire que tu vois le monde. T'es pas du tout. T'as pas ce travers qu'on reproche aux Parisiens.
Grincheux.
Se plaindre de ce qui t'entoure. Ouais, tu te plains pas du tout.
Mais c'est parce qu'il est pas vraiment Parisien. C'est un Vendéen.
C'est vrai.
Exact.
Ah oui, ça change tout.
Et puisque, au fond, le pire est notre sujet du jour, c'est quoi le pire quand on publie un album jeunesse?
D'en vendre un à son oncle.
À son oncle?
Ouais, un oncle qu'on n'aurait pas vu depuis longtemps, qui vous appelle et qui vous dit j'ai acheté ton livre.
C'est le seul.
C'est ça le pire.
Voilà, c'est qui?
D'ailleurs, on va pas dire la fin, mais enfin, il y a quand même une image forte, c'est que le Pyrano s'adresse au lecteur et lui dit, je suis sûr que vous n'avez pas aimé ce livre. J'en suis sûr.
Alors, ne spoilez pas non plus.
En matière de littérature jeunesse, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, hein, puisque vous êtes l'auteur de La vérité sur les tapirs, Le loup est un loup pour l'homme, Le cachalot, encore trois histoires vraiment bien, qui est quand même mon titre préféré, parce qu'au moins ça annonce la couleur. On vient de parler du pire, qu'est-ce qui est de plus agréable dans cet exercice?
Moi, c'est de travailler avec Philippe, c'est un plaisir.
Mais l'écriture en elle-même, inventer des histoires pour les mômes, c'est plaisir.
Oui, ça c'est... Mais quand je les... Oui, c'est un plaisir, ça, parce qu'il y a le format, en fait, est rapide. C'est le format d'un 45 tours. Mmh. Ça se lit de la même manière qu'on écoute un 45 tours. C'est pas un 33 tours. Un roman, c'est comme un 33 tours, quoi. Mais là, c'est un petit truc. Ça se passe, ça se passe.
Une petite...
Ouais, c'est ça, voilà, en fait. Mmh. J'aime bien ça.
Mais Julien, il a fait plein d'autres livres aussi, sans moi,
hein. Oui, bien sûr.
Quand même, hein. Mmh. Et dans chacun de ces livres, c'est Julien, hein. Moi je le reconnais, et c'est de la poésie brute.
À quoi vous le reconnaissez?
Cette sensibilité, cette façon de voir, une façon de voir le monde qui c'est-à-dire que le monde vous apparaît nouveau, hein, tout simplement. Qu'on parle de chansons, qu'on parle de ce qu'on voit autour de nous, c'est une façon de voir qui n'appartient qu'à lui.
C'est une créature très poétique que ce pyrannosaure, mais ça pourrait être aussi un personnage apparu dans un rêve, parce que je sais, Philippe, que vous faites un rêve récurrent et assez pénible. Vous marchez sur une plage, Mais le son de vos pas est différent, parce que ce n'est pas du sable, ça crisse un peu.
Ouais.
Mais...
Oui, ce sont des rognures d'ongles.
Ah ouais. Vous marchez sur une plage couverte de rognures d'ongles.
C'est vrai.
Ouais.
Uh-huh.
Non, c'est possible, hein. C'est pas impossible ce truc-là.
Non, mais c'est un rêve qui me revient beaucoup, là. Ouais. Ça devient pénible, hein.
C'est à vous de me dire.
Et à chaque fois, j'ai ce doute, je vais chercher le sable avec ma menotte, et puis le sable, je le vois dans ma main. Ce ne sont que des rognures d'ongles.
Ouais. T'as un rêve que vous pourriez dessiner?
Bon, ce serait pas le plus facile des dessins.
Non, j'imagine.
Ça, c'est vrai.
J'imagine.
Mais très, pourquoi pas?
Très, très.
Ça me ferait du bien, peut-être.
Peut-être.
Il faut savoir cristalliser.
Le Maxi Best Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Le Pyrannosaure, c'est signé Philippe Catherine et Julien Bert, c'est édité chez Helium et c'est chaudement recommandé. Bien, passons d'un Pyrannosaure à un monstre sacré. John Lennon, Instant Karma. Instant Karma, c'était ce que chantait John Lennon en 1970 et c'est avec ce son que nous terminons ce Maxi Best Pop de 2022. Demain, dernier numéro de la collection des Maxi Best Pop avec Sophie-Marie Laroui et Mehdi Maizi. Spoiler, il sera évidemment question de podcast. À demain.